France Culture.
Bonjour.
Bienvenue, Marie, enchantée.
Enchantée, Marie. Bon,
ça là. Super. Est-ce que vous avez ça avec vous? Vous avez des livres avec vous? Non. Vous voulez
j'ai
lire
mêmes,
là-dessus Non, vous avez la même chose que moi, c'est ça?
Exactement, oui.
Super, super.
Je le prends, je le sors.
Ouais, ce sera peut-être plus confort pour vous.
France Culture.
Ah ben non, c'est pas...
C'était hyper théâtral. Tatatin.
Lycée.
Ok, super.
Le Book Club.
Ça, c'est un billet de train. Vous pouvez nous faire lecture de ça.
Dans la bibliothèque de Jean-Pierre Luminet.
Il y a des petites choses à raconter sur chaque texte.
Bah ouais.
Évidemment.
Marie Richeux.
Les auteurs que j'ai mis sont impérissables.
Sont impérissables. C'est parfait. À 10-12 ans, vous épluchez les encyclopédies d'une maison familiale dans le Luberon, tout en même temps que vous vous demandez, Jean-Pierre Luminet, ce que sont ces petites épingles lumineuses dans le ciel immense la nuit. L'encyclopédie, ça sert à mettre un peu d'ordre dans la connaissance humaine et c'est un goût que vous partagez déjà avec votre frère avec qui vous dressez, enfant toujours, des listes des plus hautes montagnes, des fleuves par longueur croissante, des lacs en fonction de leur superficie. C'est un livre peut-être de la même bibliothèque familiale qui vous met à l'adolescence sur la piste de l'astronomie et du dessin, de plein de constellations. À cet âge toujours, vous composiez aussi de nombreux poèmes dans des petits cahiers, poèmes que vous continuez de considérer comme l'une des plus hautes expressions humaines permettant d'explorer, je vous cite, « cette part fondamentale de la condition humaine sur laquelle la science n'a pas grand-chose à dire ». Tout cela, vous le racontez dans les très beaux entretiens à voix nue que vous avez accordés à Antoine Beauchamp en 2019 sur France Culture. La science a d'autres choses à dire, et en tant qu'astrophysicien, vous la faites parler depuis des années, sous différents objets, dont des conférences, des spectacles, musicaux parfois, et des livres. Par exemple, vous la faites parler de la forme de l'univers, ce qui n'est pas une petite question. On a eu envie de savoir ce qu'il restait de cette bibliothèque d'enfance dans les livres qui vous entourent en grand nombre, paraît-il, aujourd'hui. Merci beaucoup d'ouvrir votre bibliothèque, Jean-Pierre Luminet, pour le Book Club. Bienvenue chez vous, chez nous, plutôt chez vous.
Merci beaucoup. Je suis enchanté de parler de ma grande passion pour les livres que je cultive depuis mon enfance, effectivement. D'abord en tant que lecteur. Vous savez, je consigne dans un petit carnet, maintenant il y en a plusieurs, toutes mes lectures depuis l'âge de 18 ans.
Ah bon? Donc, pourquoi faire
3 000, enfin, l'intérêt, c'est pas de les compter, mais pour me souvenir de ce que je lis, parce que c'est fondamental, c'est un parcours, c'est un chemin de vie, les lectures. Et puis après, j'ai commencé à accumuler les livres pour une bibliothèque qui aujourd'hui doit compter, évidemment, je ne vais pas compter les livres, il doit y en avoir entre 3 et 4 000 livres qui me posent... Le problème de l'organisation et de la classification.
On y revient. Alors, comment vous vous débrouillez avec ce problème de classification?
Mais comme je suis quelqu'un de relativement organisé.
Scientifique, avec
pris...
un tube. Voilà.
Non, il ne faut pas trop,
pas trop
de clichés.
Pas trop de clichés.
Bon, il y a le côté artiste aussi. Mais effectivement, pour cet aspect-là, pour savoir où se trouvent les livres, dans quelle catégorie, j'ai effectivement fait un petit peu comme dans les classifications de bibliothèque. Je les ai classés par thème et à l'intérieur de chaque thème, par ordre alphabétique, ce qui permet de les retrouver plus facilement. Alors, par exemple, j'ai une maison dans le sud de la France, dans un beau petit village provençal qui s'appelle Le Nove, à 3 étages, donc il y a des livres aux 3 étages. Et puis j'ai également un bureau au laboratoire d'astrophysique de Marseille, où j'ai également plusieurs centaines de livres qui sont plutôt effectivement des livres de science. Alors à la maison, c'est organisé, par exemple au rez-de-chaussée, c'est là où j'ai un bureau, parce que je dois dire que je travaille davantage chez moi qu'au laboratoire. Et là, effectivement, bon, il y a toute une partie qui sont occupées par un exemplaire de mes propres ouvrages, puisque j'ai publié quand même une quarantaine d'ouvrages, plus d'ailleurs à peu près une 60aine de traductions en différentes langues. Donc j'ai un exemplaire de chacun, plus d'innombrables écrits dans des ouvrages collectifs. Donc ça fait déjà une grosse bibliothèque. Et puis également, j'ai une belle armoire toujours en bas avec ce que j'appelle les beaux livres, avec des reliures un petit peu plus originales que simplement les livres de poche. Voilà. Et au dernier étage, là, c'est là où il y a l'essentiel de la vaste bibliothèque. Alors, il y a les romans, donc là, c'est évidemment par ordre alphabétique, de A à Z.
Et là, il y a des thèmes ou des zones géographiques?
Pardon,
ou non? Des thèmes ou des zones? Parce que vous parlez d'organisation
pas. Non,
par thème.
Non.
Les romans,
non.
C'est un thème en tant que thème.
Les romans. Après, j'ai une bibliothèque de poésie assez fournie. J'ai une bibliothèque d'auteurs gréco-latins, parce que j'ai une grande passion pour les penseurs de l'Antiquité et ses merveilleux écrits. Une bibliothèque très importante, une bibliothèque musicale, ma passion pour la musique, à la fois des livres, et puis j'ai une partitothèque, je joue du piano, donc beaucoup de partitions, et puis j'ai toute une série, ça c'est assez exceptionnel, une série de livrets d'opéra, non ce ne sont pas les livrets, de partitions d'opéra, retranscrites pour piano, avec des versions piano et chant. Donc parfois quand j'écoute un opéra, je suis la partition, c'est formidable, ça occupe beaucoup de place, hein, quand vous avez 150 opéras dans des gros coffrets, voilà. Une bibliothèque d'histoire, une bibliothèque d'histoire des sciences, une bibliothèque d'essais, et puis une bibliothèque d'art, l'histoire de l'art.
Alors si on s'arrête, si on s'arrête par exemple à la catégorie des romans, est-ce que vous êtes un grand lecteur de romans? Vous avez dit, j'ai commencé à 18 ans une liste des choses que je lis, par exemple, à 18 ans, vous êtes un lecteur de quoi, Jean-Pierre Luminet?
Beaucoup Alexandre Dumas, que je n'ai pas choisi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas forcément choisi mes lectures que je mettrai dans le... Bon, enfin bien. Bon oui, Alexandre Dumas, le Covid, moi, le Comte de Monte Cristo, Vicomte de Bragelonne, que j'ai relu plusieurs fois, que je trouve absolument extraordinaire, voilà. Mais j'ai toujours eu un grand goût pour la littérature du 19e siècle, les grands auteurs, Balzac évidemment, Flaubert, Stendhal.
Quand vous dites toujours Hugo, eu un grand goût, parce qu'autour de vous, ça lisait autour de vous, dans l'adolescence, dans l'enfance?
Pas particulièrement. Alors, certes, mes parents étaient enseignants, donc ils lisaient, mais je me souviens plutôt que mon père lisait beaucoup de romans policiers, peut-être pour se détendre. Non, c'est un petit peu un découvreur autodidacte que je me suis progressivement mis à explorer un petit peu tous les aspects de la littérature. Oui, j'ai oublié une bibliothèque de philosophie, une bibliothèque de religion et spiritualité. Voilà. Mais je dois dire que je lis quand même davantage de romans et d'essais. Alors pour les essais aussi, évidemment, en grande partie pour mon propre travail, parce qu'il y a ici également beaucoup d'essais de culture scientifique, hein, évidemment, beaucoup d'essais également sur d'autres thèmes, des essais de culture scientifique, et surtout, en plus, c'est surtout des essais sur l'histoire des sciences, voilà, qui m'ont permis notamment également de publier toute une série de romans historiques sur les grands personnages, là, ce que j'ai appelé les bâtisseurs du ciel. Donc tout cela sert aussi de documentation. Au-delà du plaisir de la lecture, il y a aussi une partie pour la documentation. Ce qui n'est pas le cas des romans, évidemment. Mais...
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on associe souvent, et pour vous c'est encore plus éloquent, une sorte de façon de se tourner vers les grandes énigmes posées par le ciel, pour le dire rapidement, mais des énigmes scientifiques, Jean-Pierre Luminet, et une dimension poétique? On dit toujours qu'il y a chez les astrophysiciennes et les astrophysiciens une sensibilité particulière à la poésie. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça?
Oui, alors, on commence par dire l'expression standard, vous avez la tête dans les étoiles, voilà, vous êtes astronome, donc vous êtes poète. Bon, ce genre de choses, au premier degré, ça m'agace un petit peu. Voilà. Mais il est vrai que la contemplation du ciel, pas forcément à l'œil, mais avec les yeux de l'esprit, comme je le dis souvent, puisque moi, je rappelle, je ne suis pas astronome, je suis vraiment un physicien théoricien, je fais des calculs. Mais la beauté, elle est aussi, justement, dans ces calculs et dans les équations. Et la beauté du monde nous amène à la beauté également des autres formes de réalisation humaine, d'où mes passions en parallèle pour la musique que je pratique, pour les arts plastiques que je pratique également, donc pour la poésie, enfin toutes les formes où la créativité humaine peut effectivement s'exprimer de façon différente, avec des registres mentaux qui sont différents selon qu'on écrit une équation, selon que l'on compose un petit morceau de musique, que l'on écrit un poème. Ce sont des registres mentaux différents, mais qui se complètent et qui s'enrichissent mutuellement, souvent de façon souterraine d'ailleurs. C'est peut-être souvent, parfois a posteriori, que je peux me rendre compte de ces influences souterraines, de mes pratiques diverses et variées.
Dans quel sens,
dans
vous diriez?
Dans mes inspirations.
Ce serait plutôt, par exemple, ce serait concrètement votre possibilité de poser une équation pour répondre à des problèmes astrophysiques qui vous mène à, je ne sais pas, à la musique ou à la poésie, ou ce serait dans l'autre sens, ou ce serait de toute façon toujours un peu mélangé?
Oui, c'est toujours un petit peu mélangé. Bon, pour donner un exemple, mon écriture poétique, parce que j'ai commencé à publier des poèmes dès les années 1980, j'ai publié une dizaine de recueils, a beaucoup évolué, enfin heureusement d'ailleurs, mais elle a évolué sous l'influence, en partie, mais souterraine, hein, mais sous l'influence de travaux que je menais sur ce qu'on appelle la topologie de l'univers, c'est-à-dire des formes variées, un petit peu bizarres et biscornues que l'on peut imaginer pour l'univers. Mais la topologie étant une branche des mathématiques qui oublie les rapports de distance et qui s'intéresse plutôt aux relations de voisinage, ce qui fait que j'ai eu l'idée en fait d'écrire certains de mes poèmes de façon topologique, c'est-à-dire que l'on peut y rentrer de plusieurs manières, c'est-à-dire que ce ne sont plus des lectures linéaires et métriques d'une certaine manière, mais ce sont des parcours que l'on peut
Et ça c'est directement emprunter.
Ce qui crée la polysémie, c'est parce que dans la poésie j'aime beaucoup cette histoire de polysémie, c'est-à-dire une multiplicité de sens selon la façon dont on lit un poème, selon la façon dont le poème lui-même est imprimé sur la page. Donc c'est ça aussi la topologie. Et donc il y a eu, je pense, une influence au départ souterraine, mais avec le recul, je pense qu'il y a eu une influence claire et nette.
Parce que vous parlez de la contemplation de la beauté ou la beauté contenue dans la manière de poser une équation, mais il y a aussi la question, il y a aussi l'inconnu, il y a aussi toutes ces choses qui restent à découvrir. Est-ce que ça, c'est finalement la manière dont votre cerveau est exercé à ça ou en appétit de ça, ça vous rend en appétit de tous les autres arts, Jean-Pierre Luminet ?
Ben, c'est vrai que j'ai un grand appétit pour beaucoup de choses belles et nobles. Les nobles choses que peut faire l'esprit humain, ce qu'il ne fait pas toujours malheureusement. Et pour moi, effectivement, la pratique des arts, des sciences, la philosophie, c'est une part, c'est la part irréductible de ce qui fait, de ce qui nous fait des êtres humains pensants sous cet univers qui. Malgré effectivement certaines frayeurs exprimées par Pascal, hein, le silence éternel, les espaces infinis m'effraient, ce genre de choses, au contraire, on ne peut que nous, quelque part, nous repositionner par une sorte de réflexion, et parce qu'il ne passe pas seulement justement par les connaissances astrophysiques, même si elles ont incroyablement évolué ces dernières années, mais également passe par les modes, d'autres modes de perception du monde qui nous entoure et de l'univers qui nous entoure. Mais par exemple, j'ai publié il y a longtemps, maintenant c'était en 96, une vaste anthologie qui s'appelle Les poètes et l'univers, où je racontais comment, effectivement, de nombreux poètes, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et parmi eux, les poètes extraordinairement connus, mais d'autres moins connus, ont exprimé à leur façon leur sentiment cosmique. Oui, mais ce n'est pas forcément un intérêt direct, ce n'est pas une description « Oh, la belle constellation, la grande ours, ceci, cela ». Ce sont des choses bien plus profondes, et avec, chez certains, des sortes d'intuitions prémonitoires. C'est chez ceux que j'avais appelés les rêveurs d'univers. Ben justement, tiens, vous avez cité la republication de l'Eureka d'Edgar Poe, pour laquelle j'ai fait effectivement une longue introduction, ça fait partie effectivement de ces esprits poétiques en plein romantisme, fasciné quand même par les développements de la science de l'époque, et essentiellement la science newtonienne, et qui commence à poser des questions, alors pas seulement de nature scientifique, mais également philosophique et aussi un petit peu mystique chez Edgar Poe, mais qui finalement finit par mettre le doigt sur certains mystères cosmiques en apportant. Par exemple, dans le cas de Eureka d'Edgar Poe, c'est le premier à avoir apporté une solution à une énigme cosmologique sur laquelle avaient buté les savants de l'époque, qui s'appelle l'énigme de la nuit noire. Je n'ai probablement pas le temps de la raconter.
Ça me rend curieuse.
Ah bon,
voilà. En version courte.
En version courte, on se posait la question, pourquoi la nuit est-elle noire ? C'est le génial Kepler qui avait posé cette première question. Il avait dit, mais si l'espace était infini et éternel, il y aurait un nombre infini d'étoiles, et en quelque direction que l'on regarde, la ligne d'entre eux devrait rencontrer une étoile, et donc la nuit devrait être éblouissante. Le ciel devrait être un immense tapissé d'un immense soleil, ce qui n'est pas le cas. Donc comment répondre à cette question ? Donc Kepler avait imaginé que simplement l'espace était fini, donc il y avait un nombre fini d'étoiles. Et puis Edgar Poe, c'est le premier à avoir eu l'idée qu'en fait, c'était pas seulement l'espace qui était fini, mais le temps en arrière, le temps de regard en arrière qui était fini. Puisqu'en fait, on reçoit la lumière des étoiles avec un certain décalage temporel. Si les étoiles n'existent pas depuis toute éternité, ce que l'on ignorait à l'époque d'Edgar Poe, mais que l'on sait aujourd'hui avec nos fameux modèle de Big Bang, où l'on sait que les étoiles n'ont commencé à apparaître qu'il y a 13 milliards d'années dans le passé. Eh bien, en remontant très loin, d'Autreuil, en remontant avec les télescopes, évidemment, en remontant très très loin dans l'espace, on va plonger dans le passé, il y a forcément un horizon à partir duquel les étoiles ne sont... On voit tellement loin dans
et
le
là,
passé que
noir.
Les étoiles ne sont pas encore nées, donc il n'y a pas de lumière. Et ça explique le paradoxe de la nuit noire, avec une intuition extraordinaire quand même de la part d'Edgar Poe.
On va aller vers ce qu'on appelle vos livres étapes, Jean-Pierre Luminet. Oui. On vous a demandé, comme à chacun et chacune de nos invités, de choisir 5 textes qui ont marqué votre parcours. Oui. Juste après, un peu d'amour dans le outer space.
Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Jean-Pierre Luminet, Marie Richeux.
Deuxième temps dans votre bibliothèque, Jean-Pierre Luminet, on vous a demandé, comme à chacun et chacune de nos invités, de choisir 5 livres étapes. Le premier livre que vous choisissez, c'est « Fiction ». De Borges, paru en 1944. Et à l'intérieur de Fiction, vous choisissez la Bibliothèque de Babel. Pourquoi Borges, pour commencer ?
Ah ben avec l'imaginaire fantastique de Borges, je ne pouvais être que séduit dès mon adolescence.
Vous le rencontrez à l'adolescence ?
Par ses lectures, oui, bien sûr, oui. Fiction, la LEF. Et puis, évidemment, après, avec mon parcours de mathématicien et de physicien, évidemment, également, c'est l'intérêt particulier que Borges portait à certaines énigmes. Par exemple, il a écrit sur le paradoxe de Zénon. Il était fasciné par l'infini, fasciné par les labyrinthes. Quand on lit la loterie à Babylone, fasciné aussi par ce qu'on appelle la combinatoire. Et donc, évidemment, il y avait des échos à mes propres recherches, mais surtout avec une maestria littéraire absolument incroyable. Alors, je vais effectivement
vous lire... D'après vous, qu'est-ce qui vous marque à l'adolescence ? Est-ce que c'est déjà l'aspect mathématique que vous venez de décrire chez Borges, ou c'est vraiment la puissance poétique de sa prose ?
C'est d'abord effectivement la puissance poétique de sa prose, puisque ce n'est que plus tard, en lisant et en relisant, et après avec son propre parcours de chercheur, que l'on y trouve après des échos, et on y revient. Mais par exemple, je parle à plusieurs reprises de Borges dans certains de mes ouvrages, mais par exemple, il a écrit sur le fameux paradoxe d'Achille de la Tortue, vous savez, le paradoxe de Zénon.
Voilà. Est-ce que vous voulez bien le rappeler Achille.
C'est
le paradoxe de Zénon.
Oui. Alors, Zénon, c'est un philosophe grec qui voulait, d'une certaine façon, nier le mouvement. Et pour cela, il a fait une sorte de paradoxe, qui est en fait un sophisme. Il disait, on fait une course entre Achille et la tortue. Et à chaque fois que Achille, évidemment, court 10 fois plus vite, que la tortue. Donc la tortue prend un peu d'avance, bien entendu, au départ. On s'est dit, Achille va forcément rattraper la tortue. Et simplement, Zénon mit, à chaque fois qu'Achille a parcouru la distance qui le sépare de la tortue initialement, la tortue, elle a un petit peu avancé. Et ainsi de suite, et de proche en proche, il en déduit que Achille ne rattrapera jamais la tortue. On peut faire la même chose, d'autres philosophes l'ont fait avec la flèche qui n'atteint jamais sa cible. Donc ça semble être un paradoxe qui en fait se résolut par des mathématiques et donc évidemment, c'est-à-dire une suite infinie, finie par, comment dire, en mathématiques, ça a convergé vers un nombre infini. Donc évidemment, comme le bon sens le dit, la flèche atteint sa cible et Achille rattrape la tortue. Voilà, mais c'est un sophisme intéressant et donc évidemment, Borges a beaucoup glosé là-dessus. Alors pour la bibliothèque de Babel, c'est aussi une histoire fascinante de la branche mathématique qui s'appelle la combinatoire, qui calcule le nombre de combinaisons possibles entre un certain nombre d'éléments et de configurations. Donc la bibliothèque de Babel part de cette idée extraordinaire d'une sorte de bibliothèque idéale, la Babel, où tous les livres possibles et imaginables sont concernés. Contenus. Ils sont dans cette bibliothèque parce que chacun des livres utilise une combinaison entre les 26 lettres de l'alphabet, si on parle l'alphabet occidental, plus quelques signes de ponctuation, et ça fait un nombre considérable que l'on peut calculer mathématiquement de toutes les combinaisons possibles. Voilà. Et ce qui est donc, c'est la bibliothèque Babel conserve tous ces livres-là. Mais évidemment, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que donc il y a une armée de bibliothécaires, et c'est une gageure que de trouver un livre, mais je ne parle même pas d'un livre, d'une pièce de Shakespeare ou d'un livre de Victor Hugo, un livre avec juste un mot qui ait un sens, parce que la combinatoire est telle que c'est extraordinairement rare. Et donc voilà, l'idée géniale. Mais ce qui m'a fasciné aussi dans cette histoire-là, c'est une construction en labyrinthe de cette bibliothèque, qui décrit dans l'extrait que je vais vous lire, parce qu'elle fait écho en fait à des constructions que moi j'ai utilisées dans mes propres recherches sur justement la forme de l'univers. Vous avez effectivement dans votre introduction, vous avez eu la gentillesse d'évoquer certains de mes travaux, alors pas seulement sur les trous noirs, mais sur la forme de l'univers. Et il y a un écho tout à fait extraordinaire. Je lui ai d'ailleurs mis un extrait de ce texte-là, un exergue de mon livre sur la forme de l'univers, qui s'appelle « L'univers chiffonné ». Vous voulez que je vous lise,
Borges.
Le texte ?
Ah bah oui, oui, on y va.
L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères à raison de 5 par côté couvrent tous les murs, moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir, il y a deux cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins fécaux. À proximité passe l'escalier en colimaçon qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ? Pour ma part, je préfère rêver que ces surfaces polies sont là pour figurer l'infini et pour le promettre. Des sortes de fruits sphériques appelés lampes assurent l'éclairage. Au nombre de 2 par hexagone et placés transversalement, ces globes émettent une lumière insuffisante, incessante. Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse. J'ai effectué des pèlerinages à la recherche d'un livre et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes lieues de l'hexagone où je naquis. Mort, il ne manquera pas de main pieuse pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable. Mon corps s'enfoncera longuement, se corrompra, se dissoudra dans le vent engendré par la chute qui est infinie, car j'affirme que la bibliothèque est interminable. Pour les idéalistes, les salles hexagonales sont une forme nécessaire de l'espace absolu, ou du moins de notre intuition de l'espace. Ils estiment qu'une salle triangulaire ou pentagonale serait inconcevable. Quant aux mystiques, ils prétendent que l'extase leur révèle une chambre circulaire avec un grand livre également circulaire à dos continu qui fait le tour complet des murs. Mais leur témoignage est suspect, leurs paroles obscures. Ce livre cyclique, c'est Dieu. Qu'il me suffise pour le moment de redire la sentence classique. La bibliothèque est une sphère dont le centre véritable est un hexagone quelconque et dont la circonférence est inaccessible.
Un écrivain, en général, je crois, ne commence pas par une idée abstraite. Il commence par une image, par une circonstance qui vient à lui. C'est ce que je crois que c'est Kipling qui a dit, qu'il était permis à un écrivain de faire des fables, mais non pas de savoir quelle était la moralité de ces fables. Cela était aux autres. C'est-à-dire que l'écrivain commence par des symboles. Et puis, quant à la signification de ces symboles ou à la moralité qu'on en peut tirer, c'est la question de la critique, c'est-à-dire des lecteurs, non pas de lui. Il écrit son histoire, il écrit avec fidélité. Je veux dire, il est fidèle à son rêve, non pas fidèle à la façon d'un historien ou d'un journaliste. Il est fidèle d'une autre façon, non? Et une fois l'histoire écrite, elle fait son petit bonhomme de chemin.
C'est la voix de Borges en 1965, après que vous avez lu, Jean-Pierre Luminet, cet extrait de la bibliothèque de Babel. Avec un certain délice, on vous a entendu sur la toute fin, la sentence de la fin. Est-ce que vous voulez bien nous le redire?
Oui. La sentence de la bibliothèque est une sphère dont le centre véritable est un hexagone quelconque et dont la circonférence est inaccessible. C'est évidemment une paraphrase de la fameuse phrase, notamment reprise par Pascal, mais qui remonte bien plus en avant. D'ailleurs, de Borges, ça a écrit dans, c'est ce qu'il appelle, un ouvrage qui s'appelle Les Enquêtes. Une petite enquête sur l'origine de cette citation que l'on attribue à Pascal. Vous savez, l'univers est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Ça remonte en fait dans l'Antiquité. On retrace tout le parcours. Non, mais surtout dans l'extrait que j'ai lu, il y a cette chose fascinante quand on parle. Il parle d'hexagone et puis d'illusion de l'infini, parce qu'il se trouve que l'écho qu'il y a par rapport à des constructions très complexes que j'ai conduites dans mes travaux sur la topologie de l'univers, et notamment un article que j'ai publié en 2003 qui a fait la une de la revue Nature, où j'avais proposé une forme de l'espace, ça s'appelait un dodécaèdre sphérique de points carrés. Donc figurez-vous les faces qui imitent les bords de l'univers, mais l'univers ne peut pas avoir de bord. Donc les faces sont collées entre elles, un petit peu comme s'il y avait des miroirs, comme dans le texte de demain, et les faces sont hexagonales. Et elles donnent l'illusion de l'infini. C'est comme si vous étiez à l'intérieur d'une vaste d'un dodécaèdre avec des faces hexagonales qui ressemblent un petit peu à des miroirs, et donc vous auriez l'impression d'une duplication infinie. Donc c'est pour ça que ce texte résonne de manière absolument incroyable.
Mais à ce compte-là,
40 ans, parce que ça date de 1944, le texte de Borges.
Mais justement, à ce compte-là, est-ce que vous diriez, puisqu'on est à la fois dans votre bibliothèque éminemment littéraire et dans votre bureau de grand scientifique astrophysicien, est-ce que vous avez l'impression que les productions poétiques, en l'occurrence là de Borges, aide à se figurer ensuite, avec la mathématique, avec la physique, etc., des modèles, des images. On entendait Borges aussi dans l'archive dire « j'écris en fidélité à mes rêves ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne ensuite dans les modélisations physiques
et
mathématiques ?
Oui, alors on pourrait le penser, en tout cas de manière souterraine. Moi, en toute honnêteté, je dois dire que ce n'est que après avoir développé, écrit tous mes articles techniques sur des espaces chiffonnés très compliqués, que c'est en relisant Borges que c'est revenu, que la correspondance est revenue avec ses, effectivement, ces galeries, ce labyrinthe hexagonal qui donne l'illusion de l'infini. Donc je ne dirais pas que c'est la lecture de fiction dans ma jeunesse qui a engendré,
mais en même temps,
qui a fécondé mes travaux.
Mais
on ne sait jamais. Il y a des choses souterraines qui échappent à notre conscience directe.
Parce qu'après, il faut avoir des ressources. C'est-à-dire que vous avez évidemment des ressources de mathématiques et de physique, mais il y a les hypothèses. Les hypothèses, ça se fabrique bien avec de l'imaginaire, Jean-Pierre Luminet.
Oui, bon. J'avais noté d'ailleurs dans une nouvelle de Borges où il parlait du paradoxe des Zénons qu'il avait fait une petite erreur mathématique. Oui. dans la convergence des suites.
Et que vous n'avez franchement pas manqué,
on lui pardonne bien
de corriger. On se dirige vers votre deuxième choix et là on quitte complètement Borges pour aller vers Dostoïevski. On est avec les frères Karamazov. Quand est-ce que vous découvrez ce grand texte de Dostoïevski ?
En 1880. Alors c'est pas l'année où
alors,
je l'ai découvert.
Voilà, j'étais là, non, c'est pas possible. Vous n'étiez pas né en 1880.
Ouais. Oui. En fait, ce n'est pas le livre de Dostoïevski que j'ai lu en premier. Hein. Je l'ai lu relativement, il y a quelques années, relativement récemment. Mais si vous voulez, alors il y a plusieurs choses à dire sur ce texte. Un extrait, évidemment, c'est un texte gigantesque. Donc,
mais vous avez choisi un extrait tout particulier.
Un discours du grand inquisiteur, je vous dirai pourquoi. Mais avant, je voudrais aussi, en lien aussi avec... Avec ma profession, vous savez qu'en fait Dostoïevski c'était l'écrivain préféré de deux personnages sur lesquels j'ai beaucoup écrit puis qui comptent énormément évidemment dans mes recherches. L'un c'est Albert Einstein, pour qui le frère Karamazov, il disait que c'était le plus grand roman qu'il avait lu, que Dostoïevski apportait des choses que les scientifiques n'apportaient pas. Profondeur spirituelle. Il a écrit spécifiquement, il a dit, Einstein, Dostoïevski m'a apporté plus que n'importe quel scientifique. Voilà. Puis un autre moins connu, c'est en fait le père des modèles de Big Bang, du univers et de l'expansion, qui s'appelle Alexander Friedman, qui était aussi un grand lecteur de Dostoïevski. Mais alors pourquoi j'ai choisi dans ce gigantesque livre un extrait de ce qu'on appelle le discours du grand inquisiteur? Aujourd'hui, dans le monde un petit peu fou dans lequel on vit avec des tentatives de contrôle à l'échelle planétaire, on cite souvent 1984 de George Orwell pour décrire cette emprise. Mais il faut savoir quand même que 1984 de George Orwell, ça a été publié 70 ans après et que George Orwell a explicitement fait le lien entre le grand inquisiteur, dont je vais lire un extrait, et Big Brother, bien entendu. Il faut savoir aussi que Albert Camus, dans son discours de prix Nobel en 1957, en a parlé dans son discours de réception sur ces menaces qui pesaient effectivement sur l'humanité par ces tentatives de contrôle. Voilà.
Et donc on vous écoute dans cet extrait ?
Oui.
Non ? Vous voulez dire encore un petit mot sur ce choix-là ?
Ben, je dirais un mot en conclusion.
Allez, oui. Donc on écoute le discours du grand inquisiteur.
Chez nous, chacun sera heureux. Personne ne se rebellera. Personne ne s'entretuera plus à tout bout de champ. Oh, nous arriverons à les convaincre qu'ils ne deviendront libres qu'au moment où ils renonceront pour nous à leur liberté et ils se soumettront. Et quoi, ce que nous leur dirons, ce sera juste ou ce sera un mensonge ? Ils comprendront eux-mêmes que nous avons raison, car ils se rappelleront jusqu'à quelles horreurs de troubles la liberté aura pu les pousser. La liberté de l'esprit, la science les conduiront jusqu'à de tels labyrinthes, les placeront devant de tels miracles, de tels mystères inexpliqués, que quelques-uns d'entre eux, les insoumis et les farouches, s'élimineront d'eux-mêmes. Les autres, insoumis mais plus faibles, s'élimineront les uns les autres. Et les troisièmes, ceux qui sont restés, les faibles et les malheureux, ramperont à nos pieds en criant « Oui, vous aviez raison, vous étiez seuls à détenir le mystère, nous revenons vers vous, sauvez-nous de nous-mêmes ». Le troupeau se réunira encore une fois, et il se soumettra encore, et cette fois ce sera pour toujours. Alors, nous leur donnerons un bonheur calme et humble, le bonheur des créatures sans force telles qu'elles ont été créées. Oh, nous finirons bien par les convaincre de renoncer à l'orgueil. Nous leur prouverons qu'ils sont faibles, qu'ils ne sont que de pauvres enfants, mais que le bonheur de l'enfant est le plus doux des bonheurs. Ils deviendront craintifs, ils nous regarderont. Ils se presseront vers nous comme des poussins vers la poule couveuse. Nous les émerveillerons et nous les effraierons et nous serons leur orgueil d'être si forts et si intelligents, d'avoir pu ainsi dompter cet innombrable troupeau de rebelles. Ils frissonneront sans défense devant notre colère. Leur esprit sera de terreur. Leurs yeux deviendront larmoyants comme ceux des enfants et des femmes. Mais ils passeront tout aussi facilement au premier signe que nous ferons, au rire et à la joie, à la gaieté radieuse, aux chansonnettes heureuses de l'enfance. Oui, nous les forcerons à travailler, mais aux heures que le travail laissera libre, nous leur ferons une vie qui sera un jeu d'enfant. avec des chansons enfantines, avec un chœur, des danses innocentes. Oh, nous leur permettrons même le péché. Ils sont faibles et sans force. Et ils nous aimeront comme des enfants de leur permettre le péché. Nous leur dirons que tout péché sera racheté s'il est commis avec notre permission. Et si nous leur donnons cette permission de pécher, c'est que nous les aimons. Et que la punition, soyons grands princes, nous la prendrons sur nous. Et nous la prendrons bien sur nous, cette punition. Et eux, ils nous vénéreront comme des bienfaiteurs qui se seront chargés de leurs péchés. Et ils n'auront jamais aucun secret pour nous. Nous leur donnerons ou non la permission de vivre avec leur femme et leur maîtresse, d'avoir ou de ne pas avoir des enfants, selon qu'ils seront obéissants. Et eux, ils nous seront soumis avec gaieté et avec joie. Toutes les ténèbres les plus mystérieuses de leur conscience, tout, ils nous porteront tout et nous résoudront tout. Et eux, ils auront foi en notre décision et ce sera une foi joyeuse car elle les dispensera de ce souci terrible et de ces douleurs effrayantes qu'ils supportent aujourd'hui d'avoir à décider à titre libre et personnel. Et tous seront heureux.
Et vous levez vos grands yeux devant moi lorsque vous terminez la lecture de ce discours du grand inquisiteur dans les frères Karamazov de Dostoïevski, Jean-Pierre Luminet. C'est effrayant ce texte.
C'est d'une actualité, ce texte est d'une actualité assez effrayante, y compris sur l'infantilisation de la population. Voilà. Soyez heureux, on vous donne les loisirs entre les heures de travail et... L'humanité est aujourd'hui en grande partie infantilisée.
Et alors, quand on lit, par exemple, un texte avec cette justesse-là et cette acuité-là, Jean-Pierre Luminet, ça vous aide à penser ? Ça aide à résister à cette infantilisation, par exemple ?
Ça aide à résister, oui, oui.
Votre troisième choix se tourne vers Le Nuage Noir de Fred Hoyle, paru en 1951. Là aussi, on est en crise avec ce texte-là. Qu'est-ce qui vous fait le choisir ?
Oui, alors sujet plus léger.
Cosmologiste, astronome britannique.
Oui.
Bon, plus
oui.
léger.
Alors, plusieurs choses. Oui, bon. Plusieurs choses. D'abord, Fred Hoyle, l'auteur. C'est un astrophysicien de prestige. On lui doit notamment dans les années 1940 des travaux fondamentaux sur l'origine des éléments chimiques dans les étoiles. Il a fait des calculs de physique nucléaire extraordinaires pour montrer que la plupart des éléments chimiques, à l'exception de l'hydrogène et de l'hélium, les plus légers d'entre eux, étaient formés au centre des étoiles. On lui doit aussi le terme de Big Bang, le fameux Big Bang. Et là, c'est un petit peu amusant parce que Fred Hoyle était un farouche opposant au modèle du Big Bang et il a utilisé le terme du grand boom pour se moquer de la théorie qu'avait développée l'abbé Georges Lemaître, comme je l'ai maintes fois écrit dans plusieurs ouvrages. C'est Lemaître qui avait raison qu'aujourd'hui c'est le modèle du Big Bang qui l'a emporté, mais le terme qui donne une fausse idée d'une grande explosion, parce que l'origine de l'univers ce n'est pas une grande explosion, le terme est resté. Ce choix aussi, c'est pour rendre hommage à la science-fiction. J'étais un grand lecteur, j'ai oublié effectivement tout à l'heure quand j'ai parlé de mes romans, j'ai une section spéciale de science-fiction. Fantastique, assez importante. J'ai été un très très grand lecteur de science-fiction dans ma jeunesse. J'en lis beaucoup moins maintenant. Et Fred Hoyle m'avait beaucoup marqué. Alors, avant de lire l'extrait, assez particulier, vous allez le voir, l'idée du roman, c'est qu'il y a un vaste nuage gigantesque, qu'on appelle le nuage noir, le black cloud, qui vient dans le système solaire et vient bloquer la lumière du soleil. Donc évidemment, sur Terre, c'est la panique, il n'y a plus de lumière, etc. etc. Et puis, les scientifiques finissent par comprendre que le nuage est intelligent. Alors c'est un être extraordinairement intelligent dont le cerveau c'est un réseau d'électrons avec des interactions électromagnétiques entre. C'est une imagination extraordinaire d'ailleurs sur une forme de vie extraterrestre qui n'aurait aucun rapport avec toutes les formes de vie extraterrestre
qu'on
peut imaginer aujourd'hui fondée sur la chimie du carbone, c'est-à-dire ce que l'on connaît sur Terre. Donc c'est déjà effectivement une preuve d'imagination extraordinaire. Mais le problème c'est que le nuage noir, en fait, il va d'étoile en étoile pour se nourrir de l'énergie des étoiles et sans se soucier, finalement, d'éventuellement petites planètes habitées par des êtres dont il... Voilà. Alors justement, ce qui est fascinant dans ce roman, c'est que le nuage noir, quand il prend conscience qu'il y a quand même effectivement une petite terre habitée, dont finalement il menace la vie, il demande à savoir quelles sont les productions intéressantes qu'a pu faire cette
petite planète de rien du tout.
Cette petite planète de rien du tout. Et donc les scientifiques, ils prennent les plus brillants d'entre eux, ils envoient, plus comme on avait fait une fois dans les centres Voyager, ils envoient l'ensemble de toutes les productions humaines de façon codée sur le nuage noir qui les ingurgite en quelques secondes seulement. Et comme vous allez voir dans l'extrait, ils trouvent qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, sauf...
Sauf quoi ? Ah non, on vous écoute.
Un morceau de musique.
Alors, on vous écoute. Les nuages noirs.
Maintenant, je désire m'informer dans un domaine tout différent. C'est le nuage qui parle.
Ah, c'est le nuage.
Je suis intéressé par ce que vous appelez les arts. Je puis comprendre la littérature comme étant une façon d'ordonner des idées et des émotions par le moyen des mots. Les arts visuels sont clairement liés à votre perception du monde. Mais je ne comprends pas du tout la nature de la musique. Mon ignorance à cet égard n'est guère surprenante, étant donné qu'à ma connaissance, vous n'avez pas transmis de musique. Veuillez réparer cette lacune. À vous de jouer, Anne de Kingsley. Quelle chance vous avez, aucun musicien n'a encore joué pour un pareil auditoire. Et qu'est-ce que je joue ? Mais qu'est-ce que vous diriez du Beethoven que vous avez joué l'autre soir ? L'opus 106 ? C'est un peu difficile hein, pour un débutant. Bon, allez Anne, interprétez l'œuvre pour ce bon Joe. C'est le nuage, Joe, insista Barnett. Il n'est pas indispensable que vous jouiez si vous ne voulez pas, Anne, précisa Lester. J'ai fait un enregistrement. Un bon enregistrement ? Oh, aussi bon que possible au point de vue technique. Si vous avez été satisfaite de votre interprétation, nous pouvons commencer, autant dire tout de suite. Bon, mais j'aime autant que vous vous serviez de l'enregistrement. Ça a l'air ridicule, mais je craindrais d'être trop nerveuse hein, si je jouais pour Joe, le nuage. Quelle sorte vous faites, il ne vous mordra pas. Peut-être qu'il ne me mordrait pas, mais j'aime quand même mieux l'enregistrement. Et ainsi, on transmit l'enregistrement. Et à la fin, vint le message. Très intéressant. Veuillez répéter la première partie à une vitesse accrue de 30%. Il en fut ainsi. Et le nuage déclara « Meilleur, très bon, je vais y penser. Au revoir. » « Sapristi, Anne !» s'exclama Marlowe. « Vous l'avez épuisé. Ben, je n'en reviens pas que Joe puisse apprécier la musique, dit Parkinson. Après tout, la musique est composée de sons et nous nous accordons à penser que le son ne devrait avoir aucun sens pour lui. « Je ne suis pas d'accord sur ce point, objecta McNeil. Notre appréciation de la musique n'a rien à voir avec le son en réalité, bien qu'en première apparence, il en aille autrement. Ce que nous apprécions, ce sont des signaux électriques qui se communiquent des oreilles au cerveau. Nous nous servons du son tout simplement comme du moyen commode d'engendrer certains schémas d'activité électrique. Il y a en vérité des raisons de penser que les rythmes musicaux reflètent les principaux rythmes électriques qui se produisent dans le cerveau. » C'est très intéressant, John, ce que vous dites là, s'exclama Kingsley. Ainsi, on pourrait avancer que la musique figure l'expression la plus directe des activités de nos cellules cérébrales. Oh, non, je n'irai pas jusque-là. Ce que je dirais, c'est que la musique procure le meilleur index des schémas cérébraux de grande envergure. Mais les mots donnent un index meilleur pour le schéma d'un dessin plus fin. La discussion se prolongea jusque tard dans la nuit. Toutes les déclarations du nuage furent passées au crible. Et peut-être la remarque la plus saisissante fut-elle formulée par Anne. Le premier mouvement de la sonate en si bémol majeur de Beethoven doit être joué dans un tempo fantastique, beaucoup trop rapide pour qu'aucun pianiste normal puisse le soutenir, et certainement pas moi. Avez-vous noté cette demande d'accélération du rythme ? Elle m'a fait frissonner. Bien que sans doute, ce ne dût guère être là qu'une coïncidence.
Alors, qu'est-ce que vous feriez, Jean-Pierre Luminet, en scientifique et en musicien, de la remarque de Anne ?
Oui, alors plus en musique. Bon, en scientifique, j'ai déjà parlé de cette idée très originale, effectivement, d'un nuage, d'un être super intelligent, hein, relativement immatériel d'une certaine manière. En tout cas, pas fait de carbone comme nous. Non, là, c'est l'aspect musical. D'abord, effectivement, le fait que la musique, selon effectivement le nuage, c'est finalement la seule chose qui peut sauver l'humanité. Ouais. La chose la plus intéressante et qui fait appel, après, comme le discutent les scientifiques, à des registres et des schémas cérébraux plus particuliers par rapport aux arts plastiques, à la littérature, etc. Mais surtout, en tant que musicien, vous savez qu'effectivement, la sonate puissance 6 de Beethoven, sur laquelle je ne sais même pas de m'exprimer,
elle est injouable,
effectivement, dans l'indication rythmique qu'a mis Beethoven, qui, je répète, à la fin de sa vie, était sourd, il a mis une indication rythmique à quasiment... Bon, aujourd'hui, les pianistes font des prouesses extraordinaires, mais c'est quasiment injouable. Et le nuage demande effectivement, pour que ce soit vraiment intéressant, il faut que ce soit joué 30% plus vite. Non, ça veut dire que Friedel, déjà aussi, il avait une bonne connaissance. Et pour le moment, il était pianiste. Beaucoup de mathématiciens et d'astrophysiciens sont des pianistes amateurs. Et il savait qu'effectivement, ce mouvement de sonate était quasiment injouable à la vitesse requise par Beethoven, mais que ce que le nuage a compris. Voilà. Mais en fait, les scientifiques ne croient pas. Ils pensent que c'est une coïncidence. Voilà. Et en fait, à la fin du roman, l'humanité sera sauvée grâce à ça. Le nuage noir va comprendre que, à partir du moment où il y a juste au moment, c'est au moins cette musique et cette sonate au puissance 6, l'humanité mérite d'être sauvée et il va partir vers une autre étoile.
On continue à avancer dans vos choix littéraires, Jean-Pierre Luminet, et à faire entrer dans la danse, et c'est vraiment là l'autoportrait de vos pratiques, tous les arts, cette fois l'art visuel. Le dernier été de Paul Cézanne de Philippe André, que vous avez préfacé, Jean-Pierre Luminet, aux mêmes éditions du Chien qui passe que vous évoquiez tout à l'heure. C'est votre quatrième choix. Quel est ce texte ?
Alors, le dernier été de Paul Cézanne, qui vient donc d'être publié il y a quelques mois seulement aux éditions du Chien qui passe, une merveilleuse petite maison d'édition qui a été créée par un de mes amis qui habite tout près de chez moi à Nove, est un roman qui m'a totalement fasciné par son écriture, par son originalité. On rentre dans la tête de Paul Cézanne dans ses derniers jours. Vous savez que Paul Cézanne, en revenant de la scène de victoire, a été pris dans un orage, il a glissé dans un fossé, il a eu du mal à se relever, et il a passé les quelques derniers jours de sa vie avant de mourir. Et l'idée de ce roman incroyable, c'est de rentrer dans la tête de Paul Cézanne, dans ces heures-là, dans une sorte de monologue intérieur, absolument incroyable, où tout y passe, la peinture, la musique, la fascination pour la musique, les arts et toutes les questionnements qui peuvent se poser sur l'existence, sur Dieu, sur ses relations avec ses anciens amis comme Émile Zola, ses réflexions sur l'art, un livre total. Alors, il est vrai aussi que, je dois dire que l'auteur Philippe André, ce n'est pas sa première publication. Il est psychiatre. Il a été psychiatre, un grand psychiatre de profession, mais il est aussi musicologue. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la musique. Et surtout, c'est mon ami d'enfance. Et quand je dis ami d'enfance, c'est quasiment, j'ose dire, Montaigne et la Boétie. C'est vraiment une amitié absolument indéfectible. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai choisi ce livre-là, parce que réellement, à sa lecture, j'ai été absolument époustouflé par la densité et la richesse de cet ouvrage-là, qui nous fait vraiment rentrer dans un être de toute la complexité d'un immense artiste comme Paul Cézanne, qui avait aussi un caractère de cochon également, mais qui admirablement retranscrit. Donc je vais lire.
Voilà, on vous écoute dans un extrait, Le dernier été de Paul Cézanne, de Philippe André.
Entre la chaleur et le sucre qui me brûlait le dedans du corps, mon cerveau partait à la dérive comme un bois ballotté sur la mer par mistral déchaîné. J'avais la tenace impression que la vie était effroyable. Et en même temps, je ressentais une sorte d'indifférence à tout ce qui pouvait m'arriver, un peu plus ou un peu moins. Peut-être que le plus préoccupant, s'il y avait besoin de fixer mes soucis sur un objet précis, étaient ces blancs qui apparaissaient à la surface de mes toiles et qui s'agrandissaient lorsque je les fixais trop longtemps du regard. Des trous s'ouvraient désormais entre les différentes touches de couleurs. J'avais le plus grand mal à juxtaposer des tonalités proches, ce dont j'arrivais pourtant à ne pas trop mal me débrouiller en temps normal. « Ah !» me disais-je en moi-même avec une affligeante résignation. « Si tu visais la parfaite continuité, si tu voulais que la sensation t'enveloppe comme une mer aimante, alors il fallait opter pour la musique et non pour la peinture. Mais as-tu eu le choix, petit Paul ?» Tu as bien un peu pratiqué la clarinette, mais de là à jouer les concertos de Weber ou celui de Mozart. Puis je partais dans mon vrai rire qui me secouait douloureusement. Et pour ne pas que ce rire finisse par se résoudre en des pleurs d'enfant, je me mettais à parler tout seul, aussi haut que je le pouvais. Une vie comme celle d'un trappiste. Quelle voix de guignol. Silence. Puis venait un feu d'artifice de cette trompe. Voilà tout ce que j'ai eu, et plus que mérité. Je ne me suis plus jamais entendu avec qui que ce soit comme avec Émile dans notre jeunesse. Nous partagions toutes nos pensées et nos amourettes et nos grandes passions. Nous courions de l'aube au crépuscule au milieu des garrigues. Chasser ou pêcher n'était que prétexte à sentir tout ce qui nous faisait des signes en provenance de partout, prétexte à pétrir la vie à pleine main. Peut-être que nager était ce qui, au fond, nous plaisait le plus. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Sentir l'eau froide caresser mon corps nu. Mais fini et bien fini ce temps magique. Disparu pour toujours le latin de Virgile lancé d'une voix conquérante vers la cime des pins ou des chênes. Néanmoins, ce fut déjà en ce temps que je découvris mes grandes baigneuses. Aucun doute là-dessus, Émile et moi, nous les surprenions chaque matin en pleine forêt, assemblés autour de leur étang, insensibles à notre présence, nous laissant reluquer leur nudité sans fausse pudeur. Entrevoir le mystérieux secret des choses, d'où naissent les choses mêmes. Et aujourd'hui, je voudrais que la boucle se referme. Je voudrais que s'achève ma vie dans le pays où elle a commencé. Terminus, on descend, où l'on a vu le jour, petit Paul. Pas la peine de vouloir aller plus loin. J'espère que ce n'est pas une idée vaine, pourvu que je réalise un tant soit peu. Que ma peinture arrive un jour à ressembler à quelque chose que j'ai dans la tête et qui soit en même temps crédible aux yeux du monde. Je finissais par m'endormir sur une chaise, là-haut, dans mon étuve sous les combles, en attendant l'heure d'aller manger mon maigre repas.
On quitte la peinture et l'été 1906 de Paul Cézanne, qui voit comme redéfiler sa vie, d'une certaine manière, Jean-Pierre Limnet, pour aller voir votre dernier choix, un dernier choix poétique. Vous êtes tourné vers Jacques Reda et un recueil qui s'appelle « Prose et rimes de l'amour menti », paru en 2013 aux éditions Fata Morgana. Je disais en introduction votre rapport premier, un rapport de jeunesse, presque d'enfance à la poésie. Est-ce que vous en lisez encore régulièrement ?
Oui, oui, oui. J'ai toujours lu beaucoup de poésie régulièrement. Donc je ne pouvais pas ne pas mettre effectivement parmi ces cinq choix un texte ne venant pas de la poésie. Et puis surtout un hommage à ce immense poète Jacques Reda, dont j'ai eu l'honneur d'être un ami sur le tard. J'ai rencontré Jacques Reda en 2009 seulement, comme je l'ai écrit dans un hommage que je lui ai rendu après sa disparition il y a tout juste un an. Il avait déjà 80 ans et une très belle amitié est née entre nous, parce qu'il a en fait, il s'était passionné par la science, il lisait beaucoup mes ouvrages de vulgarisation, comme Les Trous Noirs, L'Univers Chiffonné, et il s'en inspirait pour écrire ce qu'il appelait la physique amusante. C'était un tour de force littéraire où il écrivait en octosyllabes, en alexandrin, etc., ce qu'il percevait avec beaucoup d'humour de la science moderne. Mais le texte que j'ai choisi ne fait pas partie de cette série de cinq volumes sur la physique amusante, dont l'un d'entre eux d'ailleurs m'est dédicacé. Il y en a un qui s'appelle, le tome 2 s'appelle La lettre au physicien, et je suis le physicien dans cette histoire. Mais non, moi j'ai choisi un texte bouleversant qui est un texte d'amour. Ça s'appelle donc « Prose et rimes de l'amour menti » qu'il a publié en 2013. Il m'a écrit cette très belle dédicace, parce qu'il me dédicaçait tous ses livres réciproquement. La dédicace, il a écrit « Dans long Big Bang, un Big Crunch, en signe d'amitié, stable et même en expansion. Alors il y a beaucoup de choses là-dedans, hein, le Big Bang, le Big Crunch.
En
lien avec l'univers, mais le Big Bang c'est l'explosion de l'amour, et puis le Big Crunch c'est la désillusion, comme le texte va le dire. Après l'affirmation de notre amitié sur le tas, est stable et même en expansion, c'est une allusion très intéressante. Justement à un modèle d'univers stationnaire qui avait été mis en avant par Fred Hoyle, dont j'ai parlé tout à l'heure, en contradiction avec les modèles futurs de Big Bang, c'est-à-dire d'univers en expansion.
En expansion. Oh là là, la boucle est bouclée. On vous écoute.
La boucle.
Dans cette dernière
la
lecture.
La boucle bouclée.
Jean-Pierre Liminet. Prenez votre temps. Voilà.
Oui.
Pour trouver le bon sens.
Vous étiez grande et belle, ainsi qu'une rose trémière, entre un mur éclatant de blancheur et le ciel. Mais en même temps, vous étiez si belle et si petite que la fougue d'amour demeurant interdite, j'ai cru pouvoir en approcher l'arcane essentiel. Puis vous m'avez donné la douceur de la nuit à boire. Avec elle, j'ai bu le souffle de l'ange incarné, et j'ai reçu la preuve intime d'une gloire dont on dit que l'amour se trouve couronné par des bonds et des cris, comme pour la curée avant la mise à mort. Et moi, je t'avais adoré, parce que la lumière, au lieu de se courber et de te diviser en un double mirage, avait suivi tout droit sa route, afin de s'absorber et de se répandre plus vive à travers cet ombrage qu'une robe fait onduler sur les plages d'un corps, à chaque pas recomposant la justesse d'accord de sa voix, de son poids dansant sur un pont qu'il traverse, sur un frisson d'eau qui reflète un ciel incandescent, si bien que la clarté semblait pleuvoir en sens inverse pour suspendre du même coup l'heure sur le versant du soir et réunir dans l'orbe étroit de nos foulées l'espace en éclats s'éboulant par ses dénivelés. Deux ou trois ans plus tard, ce qui reste de la lumière et pareil, au rayonnement dit fossile, diffus et froid, qui se souvient encore un peu de sa première irruption lors du magma des ténèbres. Je fus ce regard ébloui devant la floraison subite des univers, depuis la valse lente des amas et des étoiles, amorçant leur feu et leur orbite jusqu'au poids de ta main dans la mienne. Si tu m'aimas, je ne le sais plus maintenant. Ce que je me rappelle, et d'avoir connu la douceur trompeuse d'être aimé, la douleur de ne l'être plus, comme vous étiez belle et tendre, et presque ingénument volage. En résumé, chacun pouvant se croire à son tour pour vous l'être unique, ce petit balai, à la fois gracieux et cynique, fait que je préfère à vos dons de bon samaritain les promesses de l'entrechien et loup de la mémoire, où tout, de moment en moment, devient plus incertain. C'est assez reposant ce grand calme avant la nuit noire et de penser qu'il n'y aura plus jamais de matin. De sourire pour me prédire une déconvenue. De baiser qui tourne à la mer comme le chicotin. Merci quand même pour l'instant où vous êtes venu m'offrir dans votre vie une espèce de strapontin. Je l'entends encore claquer aussi clair qu'une gifle. Dansez-vous toujours ? Je l'espère. Et c'est pourquoi je siffle, en m'en allant, un air léger dans le jour qui s'éteint.
C'est une fin bien mélancolique pour votre bibliothèque, Jean-Pierre Liminet.
Et qui m'a touché au plus profond du cœur.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous et avec les auditrices et auditeurs du Book Club vos choix littéraires.
Merci à vous.
Thank you. Pour retrouver toutes les références des textes choisis et commentés par Jean-Pierre Luminet, mais aussi quelques références bibliographiques de ses propres textes, rendez-vous sur la page du Book Club où vous trouvez aussi tous nos autres portraits de bibliothèque. Sur cette même page, on renseignera les traductions que nous avons lues. Aujourd'hui, au son, c'était Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Cassandre Puel. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. C'era la trie, c'era anche un fiore, sfuggito il giorno ma non ha vento e pioggia, e tutti quanti ci fa innamorare, ed io vorrei tornare al tempo della mia prima volta, quando si godeva ancora, mi abbandonai a vivere il fiore avaro della tua primavera, e ora sconvolto dal dolore, abbandonato nella mia sventura, se c'è qualcuno che non ha paura, io prego mi soccorra. Ma il tempo non si ferma, desiderata vita e trascurato amore.